Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute!
Alors aujourd'hui, au micro de Genre de fille, je reçois Manoli Cotin.
Bonjour Anne-Laure.
Salut Manoli, ça va?
Ça va et toi?
Ça va très bien. C'est un épisode spécial pour deux choses. Alors déjà, on se connaît, on est copines, enfin on est amies même. On avait déjà fait un premier enregistrement.
Oui.
Chez moi. Et la qualité du son était cata, donc on le refait aujourd'hui en studio toutes les deux. Et c'est aussi un épisode particulier parce qu'on va parler du deuil périnatal et que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé dans le podcast. Merci à toi de bien vouloir en parler aujourd'hui.
Merci à toi de bien vouloir parler de ce sujet et avec moi.
On va expliquer à celles et ceux qui nous écoutent comment en fait t'es arrivée aussi au micro de Genre de fille. Et alors qu'on prenait un café, c'était maintenant il y a quelques mois, un matin ensemble. Alors, je savais évidemment que tu avais vécu ça, le deuil périnatal et la perte de Judith. On en reparlera après. Moi, je n'avais jamais pensé à te proposer de venir en parler. Et c'est en fait, tu m'as dit que tu avais voulu en parler de ton histoire à un podcast qui s'appelle Bliss, qui est un énorme podcast sur la maternité, la maternité en général.
La maternité en général. Et je leur avais écrit, et je pense qu'elles doivent avoir des millions de candidatures. Et voilà, ça n'a pas fonctionné avec moi. Et du coup, ouais, je l'avais toujours un peu au fond de moi en me disant, bah voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup écouté, moi, des podcasts autour de la maternité, entre autres. Et ça m'a beaucoup aidée. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire aussi, si je peux en parler, parce que je me sens prête à en parler, et de pouvoir aider. Et du coup, voilà, on s'est retrouvés à ce café. Bon, on se retrouve souvent le matin à ce café. Mais là, on a parlé de ça, de ce sujet. Et ça paraissait assez évident. Enfin, OK, bah, go, toi, t'avais envie d'en parler. De ce sujet. Moi, j'étais prête à parler de mon histoire. Donc, bah, y a eu match.
Complètement. Et donc là, aujourd'hui, tu es là devant moi, deuxième fois, devant le micro.
Mais moi, je trouve ça très bien que je suis très contente de le refaire. Parce que du coup, après la première fois, avec mon conjoint, on en avait discuté et je ne le sentais pas à 100% pour. Et du coup, je sentais au fond de moi un petit « Ah mince, pourquoi je l'ai fait ?» Pas mal de remises en question.
Ouais.
Et en fait, avec mon conjoint, on en a pas mal rediscuté après. Et du coup, là, je reviens plus sereine parce que je sais qu'il est plus en accord avec ça.
Oui, parce que lui, son point de vue avait aussi évolué.
Oui, il a pas mal évolué. Et c'est ouf parce que je pense qu'il y a des choses qui n'arrivent pas par hasard. Le lendemain du premier enregistrement, on est allé voir une pièce de théâtre avec Tanguy qui s'appelle « Insuline et Magnolia ».
Ouais.
Où c'est l'acteur, comédien, qui a écrit la pièce et qui la joue et qui l'incarne, raconte son histoire. Il est diabétique et après, l'histoire d'une rencontre avec une femme, il parle de son histoire. Et en fait, Tanguy était un peu dérangé, gêné, que je raconte mon histoire au grand public. Il n'était pas trop pour. Et là, on est sorti de cette pièce et je lui dis, bah, regarde. C'est pas beau ça, quand même. Il raconte son histoire et il va aider parce qu'il y a plein de gens dans le public qui étaient diabétiques et qui ont levé la main, qui voulaient discuter avec le comédien et lui poser plein de questions parce que ça libère la parole. On peut en parler ouvertement avec ces personnes-là. Et du coup, et là, il m'a dit « Ok, je comprends ».
Comme tu dis, rien n'arrive par hasard. C'est marrant parce qu'on avait cette discussion avec mon invité d'avant qui disait aussi que rien n'arrive par hasard. Moi, je partage aussi ce point de vue. Et donc, tu te sens beaucoup plus peut-être légère ou plus libre d'en parler, puisque ce que tu as vécu avec ton conjoint, donc avec Tanguy, si on peut le nommer, maintenant, il comprend en fait ta démarche et le fait que ça peut aider plein d'autres personnes. Et moi aussi, à côté de ça, je trouvais que souvent, avec les mois ou les années, on peut oublier ce qui s'est passé, comme un accouchement, bien que je ne compare pas du tout à ce que tu as vécu avec, avec un accouchement basique, on va dire. Mais je trouve que, en fait, parler de ça et de ce qui s'est passé et de l'après aussi, comme on en parlait en off toutes les deux, c'est aussi un super... ça peut être un souvenir pour tes enfants qui sont là aujourd'hui, pour Billy, pour Nino, pour ta famille, enfin voilà, pour toi aussi en fait, en fin de compte. Te dire, bah, à ce jour-là, j'étais là et j'ai parlé de mon histoire, de ce qui s'était passé. Raconte-nous, c'était quand c'était ton premier enfant.
Donc c'est notre premier enfant. Je me souviens très bien même de la date du test. Enfin, il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et du test de grossesse, donc le 15 septembre 2018. Et ouais, on était trop contents. On a de la chance parce que ça a marché vite.
Ouais. Entre le moment où vous avez décidé de...
Ouais, ouais, entre le moment où on a décidé et on a voulu, c'est aller très vite. Donc ça, c'est une chance parce que je sais, je fais aussi ce podcast pour des amis qui ont plus de mal à en avoir. Et je sais que c'est lourd. Et donc ça, voilà, je reconnais vraiment que c'est une chance pour ça. Et du coup, voilà, ça allait très vite. On était trop contents, on se réjouissait. La grossesse se passe
super bien.
Très bien. Ouais. Gros bébé, gros ventre, mais pas de soucis. À ce moment-là, on vivait à Paris avec Tanguy. Et en fait, pendant le temps de ma grossesse, on avait des projets de déménager. Et donc Tanguy a trouvé un travail sur Lyon. Donc on est revenu à Lyon. Je dis revenu parce qu'on est lyonnais tous les deux.
Ouais.
Donc nous sommes revenus à Lyon. On a habité dans des locations, sous-locations. Et voilà, tout se passait très bien. Et en fait, un jour, donc Tanguy partait un peu en déplacement. Donc là, mon suivi, c'était 3 échos, enfin vraiment suivi classique. Hein. Et en fait, un jour, Tanguy part en déplacement. Et moi, je suis très proche de ma sœur Mathilde, qui habite à Lyon. Donc on s'est de plus en plus rapprochés. Enfin, on se voyait plus, du coup, quand je suis revenue à Lyon, évidemment.
Elle devait être contente que...
Ouais. Elle était ravie. Et en plus, elle était enceinte aussi. On se voyait beaucoup. Et donc, quand Tanguy était en déplacement, de temps en temps, ça m'arrivait d'aller chez elle. Et donc là, je dors. Thomas, donc son mari, était pareil. Je ne sais plus où il était. Il était parti. Donc, je dis, viens, je dors chez toi. Enfin, on reste ensemble. Petit à petit, au fur et à mesure, je dis, c'est bizarre. Je dis elle parce que là, on avait demandé le sexe. Donc, on savait que c'était une fille. Donc, je peux dire que c'était elle. Je dis, c'est bizarre, je la sens pas trop bouger là. Alors que normalement, je la sentais tout le temps bouger.
Là, on précise aussi que tu étais enceinte de plus de 8 mois. Donc, potentiellement, tu pouvais accoucher. Oui. Tu savais que si tu avais des contractions, etc., tu pouvais aller à l'hôpital.
Oui, tout à fait.
Tu étais en fin de grossesse.
Oui, j'étais en fin de grossesse, ouais, exactement. Et du coup, voilà, on se dit, en fait, quand on a des trucs comme ça, on se dit, non, mais allez, ça va aller. Enfin, c'est peut-être juste là, ça va revenir, quoi. Et quand même, un peu plus en plus inquiète. Et au bout d'un moment, je me mets dans un bain, en me disant, allez, je vais m'allonger, je vais me poser, je vais arrêter de stresser, ça va revenir. Et les mouvements ne reviennent pas trop. Mais bon, là, c'était le soir, tard. Donc, bref, je me couche, je dors. Alors, c'est marrant parce que du coup, j'en ai reparlé avec ma sœur. Moi, je me souviens, au premier enregistrement, je disais, oui, moi, je dors bien. Et en fait, elle m'a dit, non, t'étais quand même pas très bien. Et je pense que j'avais oublié.
T'as vu, c'est fou.
C'est dire, ah ouais, zappé.
L'interprétation qu'on fait, nous, de comment on était, de ce qu'on a ressenti.
Ouais. Ouais, c'est ouf. Alors que moi, je dis, non, faut pas trop stresser, ça va. Elle me dit, non, t'étais pas très bien. Elle me dit qu'elle aussi, du coup, était pas très bien. Et le lendemain, du coup, on se dit, allez, je vais consulter parce que ça sert à rien d'attendre. Faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Mais évidemment, je ne pensais pas du tout à ce qui s'est passé après, mais on n'imagine jamais le pire. De toute façon, on n'a pas envie d'y penser. Et Mathilde était... Ah mais non, Mathilde n'était plus enceinte, elle avait accouché. Elle avait accouché de sa deuxième, donc Louison, qui avait un mois, qui est née le 12 mars. Et du coup, donc, elle était avec sa fille et elle devait avoir un rendez-vous pédiatre au Val d'Ouest. Et donc moi, je dis, vas-y, je prends, tu vas avoir ton rendez-vous. Moi, je vais chez ma sage-femme qui habitait dans le 6e, donc de l'autre côté du pont. Et je prends un Uber et j'y vais. Donc voilà, j'y vais. Et là, j'arrive et donc j'explique un peu le truc. Elle me dit, là, il y a... une personne là qui est en apprenti, qui va te prendre, elle va te faire un monito. Donc là, je vais dans la salle, elle me fait le monito. Et là, en effet, il y a un petit truc qui se passe, je pense, parce qu'elle me dit pas trop ce qui va, mais elle appelle la sage-femme en disant, est-ce que tu peux venir voir et tout, parce que là, je sens pas le cœur.
Tu l'entends dire ça?
Non, je l'entends pas dire ça, mais j'imagine, enfin, c'est ce qu'elle a dit, quoi. Mais je l'entends pas, moi,
dire ça. Toi, t'as conscience à ce moment-là que c'est pas hyper positif?
Ouais. Là, je me dis, c'est pas hyper positif, mais après, quand même, je me dis, souvent, le cœur de la maman peut être confondu avec le cœur du bébé, surtout à la fin, quand la position est gros, il bouge plus trop, parce que on arrive moins à le choper, du coup. Donc,
t'es pas avec Mathilde.
Je suis toute seule. Ouais, okay. Je suis toute seule. Et Tanguy, du coup, il est en Angleterre. Et donc là, il y a ma sage-femme qui arrive, et donc elle refait le monito. Et donc là, je vois son visage un peu s'éteindre. Et elle me dit, bon, je vais appeler tout de suite la maternité, donc Saint-Luc-Saint-Jo, là où j'avais prévu d'accoucher. Elle me dit, je les appelle, tu y vas. Je dis, OK. En fait, là, elle pouvait, elle, rien me dire. Elle n'avait pas le droit, en fait. C'est pas elle de m'annoncer, donc elle pouvait rien me dire de plus.
Elle savait à ce moment-là?
Alors, est-ce qu'elle savait? Elle savait que
c'est un monito, c'est pas comme une écho. Enfin, avec le monito, tu peux voir si le...
Bah, elle n'entendait pas le cœur.
OK.
Mais du coup, elle ne savait pas si c'était fini ou pas. Elle ne pouvait pas poser un diagnostic. Du coup, elle m'a dit, bah, go, tu vas... Elle m'a dit, est-ce que quelqu'un peut venir te chercher et t'emmener? J'ai dit, bah, je vais appeler ma sœur, parce que là, il n'y avait personne d'autre que là, à ce moment-là, que je pouvais appeler.
Est-ce que tu lui poses une question, là? Est-ce que tu lui dis...
Non.
Attends, ouais.
Enfin, je dis, mais... Enfin, je pense pas. Après, encore une fois, mais pour moi, elle a été très claire. Je pense qu'elle savait qu'elle pouvait pas me dire. Donc, elle m'a dit, en gros, tu y vas, je peux pas t'en dire plus. Mais il faut que tu ailles consulter, fasse une vraie écho, en fait. Et un monito ne suffit pas, il faut que tu fasses une écho. Et du coup, je sentais que ça allait pas, mais je me dis, elle peut pas me dire, sinon elle me l'aurait dit. Donc, c'est pour ça que donc, je l'ai pas trop posé de questions. J'étais plus dans l'orga, logistique. Il faut que j'y aille. Donc, j'appelle ma sœur. Et donc là, Matt, elle me dit, OK, bah, j'arrive. Enfin, y a pas de... Je crois qu'elle avait fini en plus son rendez-vous.
Elle te rejoint à Saint-Luc.
Donc elle me rejoint chez ma sage-femme au cabinet dans le sixième. Elle me chope, hop. Donc j'étais avec Mathilde et Louison. Donc là, dans le trajet, ouais, on se dit, bon, allez, on essaye de se rassurer. On sait qu'il y a un truc qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi. Donc on essaie de se rassurer.
Elle te pose des questions, Mathilde, ou elle est...
Bah, elle m'en pose, mais elle sent que je suis pas très bien. Donc, voilà, je lui raconte ce qui s'est passé chez la sage-femme, mais ouais, pas plus, quoi. Et on arrive à l'hôpital, et donc là, je dis qui je suis, et là, tout de suite, oui, venez, on sait qui vous êtes, on est au courant, on nous a prévenus, on va vous mettre dans la salle, il y a une gynéco qui arrive tout de suite. Et donc là, j'étais pas avec ma gynéco, parce que j'avais un suivi avec ma gynéco à l'hôpital. Et donc là, ma gynéco n'était pas à dispo à ce moment-là. Donc, c'est une autre gynéco que j'ai eue, donc je n'avais jamais vue, et qui, dans la petite salle, donc on était la gynéco, Mathilde, Louison et moi. Et donc là, elle fait l'écho, et là, tout de suite, c'est fini. Elle dit, le cœur ne va plus, c'est terminé, le bébé n'est plus là, quoi. Donc là, tout de suite, elle pose là de ça. Donc là, bah...
Tu penses qu'elle savait avant de rentrer
Je pense qu'elle s'en doutait. Je pense que la sage-femme lui avait dit il y a de fortes chances que ce soit fini. Parce que la manière dont on a été accueilli, reçu, et là, paf, direct, l'écho en deux secondes, c'est tombé, quoi. Donc je pense que, ouais.
Elle t'a regardé, elle te l'a dit. Enfin, je veux dire, tu t'en souviens
Oui. Ah ouais, je m'en souviens. Oui, ça, c'est un des rares moments où c'était le plus clair, limpide, parce que c'était un des rares moments où, justement, la sentence était paf,
okay.
Cash. Il n'y avait pas de flou, peut-être que... Non, là, c'était terminé. Et donc là,
Tu trouves qu'elle te l'a... Excuse-moi, tu trouves qu'elle te l'a dit... je ne sais pas si gentiment est le terme, mais...
Oui, cash, mais avec beaucoup de bienveillance. Et je ne l'avais jamais vue, moi, cette gynéco. Et c'était... Ouais, il y a eu un truc qui s'est passé. Je crois que c'est un des rares visages dont je me souviens à l'hôpital. Parce qu'après, j'en ai vu hein, d'autres,
ouais.
De personnel. Et je crois que c'est une des rares personnes où je me souviens vraiment de son visage. Parce qu'elle n'avait pas de masque en plus. Enfin, elle s'est dévoilée aussi, quoi. Là, le monde s'écroule. Mathilde, donc là, on se prend dans les bras. On est ailleurs. Enfin, d'un coup, là, ton monde, t'es plus là. Tu sais plus où t'es. Tu réalises sans réaliser.
Est-ce que assez rapidement, tu as envie de poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ou pas forcément?
Pas tout de suite. Non. Parce qu'en fait, très vite, la gynéco part dans des... C'est arrivé hyper... Ça, j'ai été assez surprise que ça arrive aussi vite. Mais après, avec le recul, très bien, hein, c'est comme ça. Et si c'est fait comme ça, je pense que c'est très bien que ça se soit passé comme ça. Mais la gynéco, très rapidement, part dans des explications du procédé, comment ça va se passer à la suite. Et là, très vite, elle me dit, voilà, vous avez deux options. Donc là, tout de suite, t'es un peu ramené à la réalité, quoi.
Dans le concret.
OK, concret, là, qu'est-ce qui va se passer Et là, elle parle très vite de l'accouchement. Parce que bah, là, j'étais à 8 mois, je ne pouvais pas la garder trop longtemps. Enfin, en plus, même moi, d'avoir mon bébé mort en moi, c'est pas trop envie de garder trop longtemps. Quoi. Moi, sans y avoir encore réfléchi, je m'étais dit, je pense inconsciemment, sans l'avoir acté encore dans ma tête, mais je m'étais dit, ils vont me faire une césarienne. Enfin, en fait, quand elle m'a dit, il y a deux options, césarienne ou par voie basse, on vous conseille très fortement l'accouchement par voie basse. Là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Là, ils me demandent quelque chose, mais ils sont fous. Enfin,
et
ils sont tarés.
Pourquoi ils conseillent l'accouchement par voie basse?
Ils le conseillent parce que de vivre le passage, tu le vis vraiment, en fait. Et là, moi, j'avais qu'une envie, c'était qu'on m'endorme et que de ne pas voir. Et en fait, ils se disent, ben non, en fait, il faut que vous, vous le viviez, pour le deuil sera plus facile après.
C'est un côté psychologique.
Ouais. Donc, ouais. Après, moi, je me suis laissée porter. Je me suis dit, bon, bah, s'ils me disent ça, c'est que c'est pros, la bonne solution. Ils sont pros, ils ont l'habitude, même si, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais il y en a d'autres cas, quand même, où ça arrive, des morts in utero. Je me dis, s'ils le font, c'est qu'ils ont... ils me conseillent fortement ça, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Donc, je fais confiance.
Mathilde est toujours là avec toi à ce moment-là?
Oui.
Assez rapidement, tu te dis, il faut que je prévienne Tanguy, tes parents, enfin, tu vois, comment ça s'est passé?
Avec du recul, parce que je pense que l'annonce de la mort a été le moment le plus douloureux, très fort, mais il y a autre chose qui a été très, très compliqué à gérer, parce que ça a été plus dans la durée et de prendre des décisions, en fait, de savoir comment l'annoncer. Tanguy qui n'était pas là, qu'est-ce qu'on lui dit? Il est en Angleterre, il est à l'étranger, il devait rentrer, mais en fait, il allait prendre l'avion. Là, en fait, comme si d'un coup, tout le monde avait conscience qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ma mère qui était à son boulot à une demi-heure de Lyon, pareil, qu'est-ce que je ne peux pas lui dire, elle va prendre le volant, c'est dangereux en fait. Donc là, de gérer tout ça. Et sauf que les gens, surtout Tanguy, étaient « qu'est-ce qui se passe? Dites-moi en fait, vous ne pouvez pas me laisser comme ça ».
C'est toi qui appelles Tanguy ou c'est Mathilde qui l'appelle?
C'est surtout Mathilde qui l'a eu au téléphone. Moi, c'était très compliqué pour moi de la voir. Je n'arrivais pas à lui parler, quoi. Et c'était, ouais, presque, enfin, pas lui mentir, mais je lui mentais pas parce qu'il me disait pas est-ce qu'elle est morte. Je disais non. Ça, donc ça, oui, ça aurait été un mensonge, mais là, c'était pas le cas parce qu'il m'a pas dit, il m'a pas posé cette question. Mais il me disait qu'est-ce qui va pas et du coup, je disais non, je peux pas te le dire. Enfin, viens et tu. Et donc ouais, ça a été très douloureux la gestion de l'annonce.
Donc en fait, vous lui dites de rentrer en France. Il y a un problème. Donc là, il prend un avion et après, il te rejoint à l'hôpital. Il s'écoule quoi, 24 heures?
Non, il ne s'écoule pas 24 heures, parce que moi, il arrive le... On était le matin, là, donc on a appris le fin de matinée, je pense que c'était fini pour Judith. Enfin, je dis Judith, là, à ce moment-là, je ne savais pas encore son prénom, parce qu'on l'a nommé après. Et après, il y a... Donc, avec ma sœur, après, il y a dans l'ordre, c'est ma mère d'abord qui est arrivée. Donc là, ma mère est arrivée, c'était l'effondrement total. J'ai jamais vu ma mère s'écrouler. Et là, elle s'est écroulée littéralement. Enfin, physiquement, elle est tombée par terre. Après, il y a mon beau-père qui est arrivé. Et c'est pas mal mon beau-père aussi qui a un peu géré justement la communication avec l'entourage. Ma belle-mère qui était en Bretagne, mais mon frère à Paris. Enfin, en fait, il fallait gérer tout ça, quoi.
C'est énorme.
Et ça, ça a été très compliqué. Et là, c'est là où toute ma reconnaissance est pour ma sœur, parce qu'elle a apporté ça, en fait. C'est elle qui a géré tout ça. Et Louison, qui était là aussi, qu'on n'entendait pas dans son petit coin comme ça, en mode je me fais tout petite, à vivre tout ça en direct aussi. Ça a été fort, je pense, pour elle. Et après, mon père et Tanguy qui est arrivé, du coup, je pense, en fin d'après-midi. Et donc là, il est arrivé. Donc là, tout le monde nous a laissés. On était tous les deux dans la salle. Pareil, Tanguy, je pense qu'il pleure pas beaucoup. Et, ça lui arrive, mais devant une petite larme, devant un film, un livre, il peut. Mais voilà, de pleurer comme ça, vraiment pleurer, c'est pareil, c'est rare. Et là, je l'ai vu s'effondrer. Il me dit, mais, et ce que je comprends, il m'a dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et donc là, j'ai dû expliquer, j'ai dû me justifier. Ça, c'est dur aussi, je trouve.
C'est gérer aussi la tristesse de l'autre.
Ouais.
Alors que toi, c'était...
Ouais, en fait, oui, je me suis pris là en pleine face. Donc oui, je dois regérer tout ça. Et en fait, c'est toutes ces annonces-là, en fait, limite, toi, t'es un peu porté à un moment donné par un truc et tu dois gérer la tristesse des autres dès que tu leur annonces. Et ouais, ça... Mais il y a des moments, du coup, j'ai l'impression presque de porter les autres. Mais c'est assez dingue, hein. Mais je pense que... pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui ont vécu des morts proches et deuil, ouais, c'est souvent comme ça. Je pense qu'il y a un moment où on porte et après, on va se laisser porter. De l'après, on se relaisse porter parce qu'on relâche et pouf.
Ouais, tu rassures presque les autres.
Oui.
Tu essaies de trouver les bons mots, d'expliquer. Ouais.
Ils ont besoin d'explications. Bon, là, nous, on n'en avait toujours pas. On n'en a pas eu. Mais bon, après, du coup, là, si je vais dans l'ordre des choses, donc là, tout le monde arrive, tout le monde s'est regroupé. Et en fait, pareil, je pensais que c'était deux jours après. Et en fait, c'est le lendemain que j'ai accouché. Donc, il y a eu une soirée.
Pourquoi tu dis deux jours après? Est-ce que lors du premier enregistrement, tu pensais que c'était deux jours après?
Oui.
Ah, c'est marrant. Et en fait, donc là, on en reparle, mais quand tu as fait un débrief un peu avec ta sœur ou avec Mathilde ou avec Tanguy, tu t'es rendu compte que parfois, les événements n'avaient pas eu lieu à ce moment-là.
Complètement.
Exactement.
Oh, c'est ouais. En fait, tu es tellement dans un autre monde que tu n'es plus vraiment là. Donc, l'espace-temps est coupé. Ouais, c'est assez dingue. Donc, tu ne sais plus trop l'ordre des choses. C'est flou, c'est un peu le trou noir. Tu es projeté dans un truc où tu te laisses un peu porter aussi. Moi, j'étais à l'hôpital, je me laissais porter. Donc, tu ne sais plus trop comment ça se passe.
Donc, le médecin qui t'annonce le décès de Judith, c'est la même qui va t'expliquer comment va se passer l'accouchement, qui te dit quand est-ce que ça va se passer
Après, je ne l'ai pas revue. En fait, elle m'a annoncé, elle m'a expliqué
les options.
Et après, Si, je l'ai revue une fois. Elle est revenue me voir quand même après l'accouchement, quand même. Parce que, oui. Mais après, non, j'ai été avec une sage-femme. D'ailleurs, c'est elle qui m'a accueillie, qui s'appelle Camille.
On en reparlera après.
On en reparlera après. Ouais. Oui, je l'ai retrouvée. Elle fait partie de mon... Enfin, ouais, au quotidien, presque, parce que je la croise souvent. Et donc, ça, c'est assez dingue aussi. Et en fait, c'est elle qui nous a accueillis. Après, on était avec la gynéco. Et après, c'est Camille qui nous a vraiment accompagnés tout le long. Et c'est elle qui a accouché, avec qui j'ai fait l'accouchement.
Tu décides, en gros, d'accoucher par voix basse.
Oui, on décide par voix basse. Je fais confiance. Je me dis, bon, bah, OK, ça me paraît atroce, mais j'y vais. On a des personnes qu'on connaît qui ont vécu ça aussi, avec qui j'ai eu...
Qui sont des amis communs.
Qui sont des amis en commun, avec qui j'ai pu échanger. Et du coup, ça m'a vachement aidée dans le process. Et ils nous ont donné des conseils, ils nous ont expliqué comment ça allait se passer. Et du coup, j'ai dit, bah, OK, go, enfin, c'est ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Et en fait, du coup, le soir de l'annonce, on s'est retrouvés avec tous les proches qui sont tous arrivés. On est tous allés au resto.
Donc là, tu avais le droit de sortir de l'hôpital.
Oui, je pouvais sortir, ouais. Et on s'est tous retrouvés au resto. C'était bizarre. C'était hyper bizarre. À la fois, j'avais besoin de cet amour, d'être entourée. En même temps, j'avais ma fille qui était là en moi. Enfin, c'était très étrange, je pense. Mais elle était avec nous aussi, enfin, du coup.
Tu savais que tu allais accoucher le lendemain, alors ?
Oui. Et après, on est rentré à l'hôpital. On a dormi à l'hôpital. On aurait pu rentrer dormir chez nous. Moi, j'ai préféré rester à l'hôpital cette nuit-là. Et du coup, avec Tanguy, on a dormi tous les deux dans une chambre. Et puis, Saint-Luc-Saint-Jean, en plus, on est quand même bien. c'est un hôpital qui est super, avec des belles chambres.
Et on te dit, tu vas accoucher à telle heure le lendemain matin ? Comment ça se passe ?
Et oui. Enfin, ouais. En fait, on allait me déclencher. Donc, comme un déclenchement classique.
On donne l'ocytocine.
Ouais, ocytocine. Et à voix orale aussi. Moi, j'ai pris un médicament par voix orale. Et après, donc, à partir de... Je crois que ça a commencé vers 10h. Ah, je sais, voilà, je regarde l'heure à laquelle elle est née, parce que ça paraît, je l'ai zappée. Mais je retrouve l'heure. Mais je crois que vers 10h, on va en salle d'accouchement. On me prépare. Et après, j'ai demandé aussi la péridurale. Parce que ça a un accouchement où c'est déclenché. Ça peut, un premier, en plus, ça peut être long. Et surtout que j'allais être un peu seule à travailler. Parce que, bah...
On t'a expliqué ça, que,
oui.
Que quand tu accouches d'un enfant, d'un bébé mort... en gros, c'est différent. Donc, tout le travail vient de toi.
Ouais.
Et
ouais. Donc, oui, bah, ouais, ça m'est bien expliqué. Et aussi, on nous avait conseillé, donc, les amis qu'on a en commun, ils m'avaient conseillé de prendre de la musique parce que c'est un accouchement, du coup, sans bruit, en silence, parce que le bébé, quand il sort, bah, il pleure pas. Ouais, des petites choses comme ça auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et on a été tellement contents d'avoir ces conseils-là. Ça nous a beaucoup aidés. Et donc, l'accouchement a duré peut-être... Ouais, ça a duré un petit moment quand même. Et
Donc là, tu as la sage-femme, Tanguy et toi.
Oui.
Donc, Camille, cette fameuse Camille dont on parlera plus tard.
Ouais.
Qui te guide et...
Ouais.
Est-ce que vous aviez décidé du choix du prénom,
bah, déjà ? Du coup, on a eu le temps d'en parler avec Tanguy pendant le travail, en fait, qui se faisait. On a eu le temps d'en parler. On avait deux prénoms qu'on aimait beaucoup. Et à un moment, moi, j'ai eu la réflexion de, bah, en fait, ce prénom-là, je l'adore, mais du coup, je l'aime tellement qu'en fait, ça me fait bizarre parce que je vais peut-être pas assez le dire parce qu'elle sera plus là. Donc, en fait, et donc, c'était Judith. Et là, Tanguy, donc après, il me dit, je comprends ton point de vue, mais... Et en fait, après, on
comme
s'est dit...
Comme Tanguy, je vois bien quoi, il s'est dit, je comprends ton point de vue, mais...
Je comprends.
J'entends ce que tu dis.
C'est clair. Tanguy. Et du coup, et après, en fait... L'autre prénom, enfin, je sais pas, Judith était évident, en fait. Donc, c'était Judith. Et ouais, ça lui va trop bien. Et puis, c'est pas pour autant que je le dis moins. Enfin, il est là, ce prénom, il est tout le temps là, il sera tout le temps avec moi, avec nous. Et on l'évoque de temps en temps, même avec nos enfants. Donc, ça, c'est cool. Et donc, voilà, après, donc, elle est arrivée. La sage-femme, du coup, il y avait une autre personne qui était là avec Camille. Elles étaient deux au moment de l'accouchement. Elles l'ont sortie, elles étaient géniales, elles étaient top, elles étaient bravo, allez pousser et tout. J'avais ma dose de péri, hein, parce que comme je sais, vous mettez la péri, hein, on y va là. Donc j'étais quand même un peu shootée, donc j'étais quand même pas mal. elles m'ont vraiment accompagnée, elles ont été au top. Et elles m'ont félicité, elles étaient à fond avec nous, c'est super, tout ce que vous faites, ça fait du bien d'entendre ça. Et après, elles l'ont prise, elles l'ont emmenée, on avait pris un petit habit pour elle et tout, donc elles l'ont emmenée, elles l'ont nettoyée. Et après, elles l'ont ramenée. Et donc là, c'est ouf, comme Tanguy, tout de suite, il a voulu la prendre. Et moi, j'étais là, oulala, je ne sais pas si je vais y arriver, c'est hyper dur. Déjà, on l'a vue, enfin, trop belle. Il y avait peu de signes, en fait. Elle avait quelques taches, mais pas beaucoup. Enfin, du coup, elle était magnifique.
Ouais.
Et donc là, Tanguy, il la prenait dans les bras, il voulait plus la lâcher. Et moi, je n'ai pas réussi tout de suite à la prendre. J'avais un peu de mal. Donc après, ils l'ont récupéré. Et après, nous, on est descendu dans la chambre. Et là, dans notre chambre, il y avait une quinzaine de personnes qui étaient là pour nous accueillir.
Tu savais pas que c'était le cas?
Non,
ou
je ne savais pas. Je m'attendais pas à ça, non.
Tu venais quand même d'accoucher. Enfin, c'est...
Ouais, quand même. Je m'attendais pas à ça, mais c'était un moment magique. Enfin, il y a eu une ronde. Du coup, moi, je me suis allongée sur le lit dans la chambre. Et là, il y avait surtout de la famille qui se sont mis autour de nous en ronde humaine d'amour, une chaîne d'amour. Ouais, je pense que c'est inexplicable, ce moment-là qu'on a vécu. Et du coup, on leur a annoncé la naissance de Judith. Du coup, ils savaient le prénom. Et ouais, c'était ouf. C'est ouf.
La sage-femme vous ont conseillé, je l'avais déjà entendu, de prendre des photos de Judith.
Oui. Oui. On a pris des photos. Après, donc, Judith était dans une chambre froide.
C'est-à-dire qu'à un moment, ils viennent te dire, on la reprend, vous la reverrez plus tard. Comment ça se passe?
Ouais, en fait, avant qu'on retourne dans notre chambre, ils l'avaient repris. Disant, ils nous ont expliqué, on va la mettre dans une chambre froide. Et vous pourrez aller la voir le temps qu'elle y sera. Donc, c'était elle est restée quand même 3-4 jours. Et du coup, nous, on était dans la chambre. Et en fait, on pouvait y aller quand on voulait. On a pu prendre des photos, des empreintes aussi. Ils ont fait des empreintes de ses mains et pieds.
Elle était très belle. Tu m'as envoyé une photo après que j'étais très touchée que tu m'envoies cette photo. Et elle est magnifique.
Merci. Et après, on a proposé du coup à des personnes qui voulaient aller la voir que c'était possible. Et ça, ils nous ont dit, vous allez quand vous voulez. Et tout le monde, enfin, c'est ouvert, quoi. Enfin, vraiment, ceux qui veulent, il n'y a pas... Tout le monde peut y aller. Donc, il y en a pas mal qui ont voulu y aller, d'autres non. Chacun, parce que ce n'est pas évident, hein, je peux comprendre. Et donc, ceux qui voulaient y aller, on les accompagnait à chaque fois. Et c'est dingue, comme au début, j'étais là, oh, mon Dieu, je ne vais pas y arriver. Et en fait, j'adorais y aller, je voulais tout le temps y aller. Donc, j'allais en chaise roulante. On m'emmenait, Tanguy me poussait. Et on y allait et on était trop contents que les gens la rencontrent, en fait. Et du coup, on aimait y aller d'accompagner, de rester avec elle. Et après, ce qui a été très dur, c'est quand on nous a dit, là, c'est fini, on va devoir l'enlever. Et là, de plus pouvoir la voir, là, ça a été très dur pour moi aussi. Ça a été et pour Tanguy aussi, pour nous, un gros déchirement. De se dire que là, ça y est, on ne verra plus son corps, quoi. On ne pourra plus la toucher.
C'était quoi c'est 3 jours après.
Ouais. Et donc là, en fait, après, on est rentrés chez nous. Donc il y a tout l'après qui n'est pas simple aussi à gérer, c'est qu'on rentre. Alors on était à Sainte-Foy. Là, aujourd'hui, on habite à Sainte-Foy. On a acheté un appartement. Mais avant, on était en sous-location dans une maison, à ce moment-là, d'une amie de mes parents, une magnifique maison. Donc on avait installé, mais pas trop. Donc, ce n'était pas si mal, en fait, qu'on soit dans une maison un peu en transition.
Ouais.
On avait préparé la chambre, mais elle n'avait pas sa chambre. Voilà, on avait mis un lit dans une pièce, quoi, avec quelques affaires, histoire d'eux, mais c'était pas, elle n'avait pas sa chambre tout préparée, la déco et tout. Et là, tu vois, c'est marrant, ça me revient maintenant, en me disant, en fait, ce n'est pas mal fait qu'on était en sous-loc à ce moment-là, que c'était une maison vraiment
de transition quoi. Ouais.
Et du coup, en fait, il y a mon équipe d'entourage fort, ma famille, ma mère, ma sœur, qui sont allées à la maison avant et qui ont enlevé, en fait, toutes les affaires. Parce que dès que tu rentres, en fait, tu rentres
tout
seule.
Tout te ramène à ça, quoi.
Bah ouais. Donc, il y a eu tout cet après, où là, on a préparé aussi un enterrement.
J'ai juste une question, c'est quand tu es à l'hôpital, on te dit, est-ce que vous voulez faire une cérémonie?
Oui. En fait,
t'encourage à le faire? Ou pas forcément?
Pas forcément, là, c'était... Enfin, on nous encourage.
De toute façon, alors déjà, à 8 mois, t'as forcément un état civil. L'enfant est marqué dans le...
Oui, dans les vraies de famille, elle y est, oui. Mais ils nous ont conseillé de le faire, mais c'était moins fort que l'accouchement par voie basse. Là, c'était en fait... ouais, c'est ça, en fait. Faites-le, s'il vous plaît.
Pour l'accouchement par voie basse, ouais.
Et du coup, là, l'après, je trouve qu'ils nous conseillent de faire une cérémonie. Mais c'était moins... Voilà, après, on vous laisse faire un peu comme vous voulez, mais on vous le conseille. Mais c'était moins tranché, quoi. Mais du coup, nous, on a voulu le faire pour nous, pour l'accompagner, pour notre famille aussi, pour nos familles, nos proches, nos amis. Et du coup, on a préparé une cérémonie dans une église. Et, en fait, la première église que j'ai visitée, enfin, pas visitée, mais on m'a dit, ça peut se faire ici le jour de l'enterrement. Du coup, ça peut se faire dans cette église-là. Je suis là, oulala, non, c'est trop grand, trop. Il n'y avait pas le truc, j'avais pas le fit. Et du coup, on a changé d'église. Donc, c'était vers Saint-Luc, pas très loin. Et on a changé d'église et là, c'était cocooning. Enfin, je ne sais pas, je me ressentais mieux. Du coup, on a fait toute cette préparation-là avec notamment ma belle-mère qui m'a beaucoup aidée, que je remercie, pour le choix des chants, des textes. Avec Tanguy, on a lu un texte, une partie du Petit Prince. Et après, il y a eu des chants et je pense que ça... Ouais, ça a permis de nous réunir et de raconter un peu ouvertement à nos proches ce qu'on a pu vivre. Et ouais, c'était un beau moment. On ne regrette pas de l'avoir fait.
Et puis, tu étais dans l'action d'une certaine façon aussi. Donc, en fait, ça permet de ne pas cogiter sur un truc concret. Donc, la cérémonie se passe. C'était quoi? C'était environ une semaine après ton accouchement?
Ouais, exactement. Une semaine
et
après.
Et puis, après, vous rentrez dans votre maison de transition. Et là, comment ça va?
Ouais, c'est dur. Là, après, je trouve que c'est très dur parce que, en fait, tout le monde reprend sa vie, son quotidien. Même Tanguy repart travailler. Tout le monde...
Toi, t'as quand même eu un
congé mat.
Ce qu'ils appellent un congé maternité.
Ouais. Du coup, je suis en congé mat sans enfant. Donc, c'est pas simple, je trouve, ce moment-là. Je trouve que le matin était très dur. Tu te réveilles, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc là, c'est pas simple. Donc après, heureusement, j'étais quand même encore une fois très entourée. Donc, il y avait beaucoup de passages. Et après, j'étais fatiguée aussi. J'essayais de dormir.
Puis, t'as quand même aussi les inconvénients d'un...
Oui.
T'as tous les effets physiques d'un post-accouchement, sauf que ton bébé n'est pas là.
C'est ça. Ouais. Après, comme l'accouchement s'est très bien passé, j'ai pas eu beaucoup de séquelles. Et aussi, il y a une des rares... ils le donnent très peu, mais il y a un médicament qui donne pour la montée de lait, mais qui est très fort. Ils le donnent vraiment dans des cas extrêmes. Et donc là, ils m'ont donné un. Donc, j'ai pas eu cette montée de lait. Et je les remercie parce que franchement, je trouve ça assez chaud. Donc en vrai, le post-accouchement s'est plutôt bien passé. Parce que l'accouchement s'est très bien passé, en vrai. Même si c'était un bon bébé, elle faisait 3,6 kg à 8 mois.
Ouais.
On est pas mal.
Elle est costaud, la petite. Hein.
Ça s'est très bien passé. C'est plus, t'es un peu vide, t'es chez toi. En plus, j'étais dans cette grande maison. Mais du coup, il y avait pas mal du monde qui venait tout le temps. C'était ouvert. Et je passais beaucoup de temps avec ma sœur et ma cousine. Ma cousine a accouché après moi. En fait, on était toutes les trois enceintes en même temps. Et Mathilde a accouché mois avant.
Ta cousine Olivia ?
Ma cousine Olivia a accouché un mois après. Et donc, elle était aussi en congé mat. Et j'ai passé beaucoup de temps avec elle. En fait, il y en a qui me disent « Ah, mais c'est pas trop dur et tout. » Non, en tout cas, avec elle, ça n'a pas été dur parce que j'avais tellement vécu cette grossesse avec elle qu'en fait, j'ai vécu le post-accouchement avec elle. Et puis, j'étais avec, du coup, voilà. Donc, au final, j'étais pas seule parce que j'étais avec elle.
Est-ce que, on n'en a pas parlé, mais quand tu étais à l'hôpital, donc tu es restée pas si longtemps que ça, en fait, à l'hôpital, entre le moment où on t'annonce que Judith est décédée et l'accouchement, et ensuite tu t'en vas. Est-ce que les médecins prennent l'initiative de te dire il n'y a pas de raison, ça arrive comme ça, le cœur peut s'arrêter de battre? Est-ce que c'est vous qui allez au-devant des questions, qui allez au-devant avec vos questions en disant est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un problème? Enfin, tu vois.
Et évidemment, oui, c'est vrai qu'on a posé la question, on a voulu savoir. Ils nous ont dit, en fait, le cœur s'est arrêté, mais on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas là d'explication. Tout de suite, là, à la sortie, on a regardé, elle n'a pas le cordon qui... Et encore, même l'histoire de cordon, je crois que c'est pas forcément ça qui fait que l'enfant meurt. Mais il n'y a pas d'explication comme ça, dans les trois jours, en tout cas, suite à l'accouchement. Donc, ils ont dit, c'est un peu comme... là, pour l'instant, l'explication qu'on avait, c'était c'est une mort in utero. Et c'est un peu comme une mort subite du nourrisson, mais in utero. Et après, ils nous ont proposé, ils nous ont demandé si on voulait faire une autopsie. On a dit oui, on a accepté. Et donc ça, c'est très long, donc il faut être très patient. Donc là, je revoyais souvent ma gynéco, donc celle qui m'avait suivi lors de toute la grossesse, que j'apprécie beaucoup. Et du coup, là, avec elle, donc elle nous a expliqué tout le procédé. Il nous a dit que ça peut être très long, donc n'ayez pas d'attente. Et en plus, il peut même pas y avoir d'explication. Donc on était OK avec ça. Et en fait, donc c'était genre 6 mois après, on nous a appelés. Pour...
C'est 6 mois plus tard?
Ah ouais, ouais. C'est pour ça, hein. Ah ouais, ouais.
C'est hyper long.
Ouais, c'était long. C'était long. En fait, on a eu un premier rendez-vous en juillet, et après, je crois qu'ils ont refait des analyses plus poussées, et je crois que c'était en novembre. Enfin, il y a eu ça s'est fait en deux temps. Et en fait, quand on est allé à l'hôpital avec Tanguy pour le rendez-vous, pour qu'il nous explique, là, c'était ouf, parce que là, tout de suite, il nous dit, donc on ne sait toujours pas pourquoi, il n'y a pas d'explication de sa mort. Et donc là, moi, j'étais effondrée. Je me suis dit, moi, je voulais avoir une explication. Je me suis dit, pourquoi, en fait? Et Tanguy, non, c'est cool. Enfin, en fait, c'est qu'il n'y a pas de problème. On pourra en avoir un autre enfant derrière. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, c'est cool, ça marche. Enfin, là, c'est juste elle et on ne sait pas trop pourquoi. Et après, moi, sur le moment, j'étais dévastée de ne pas avoir d'explication. Et avec le temps, je me fais mes raisons à moi. J'ai vu une personne hier qui m'a encore donné d'autres raisons. Et... ouais, c'est d'histoire d'âme. Ouais. Et son âme nous a choisis. Alors ça, quelquefois, j'ai du mal à me dire pourquoi elle nous a choisis, nous. En fait, je ne sais pas si un jour j'aurai la réponse de pourquoi Elle nous a choisi nous et qu'elle a décidé de partir. Son âme n'était pas prête à vivre sur cette terre. Et en même temps, c'est beau aussi, hein, elle est là-haut et je sais qu'elle est bien là-haut. Et voilà, mais du coup, ça, c'était... Alors, je ne sais pas si c'est plus féminin que masculin, de besoin d'avoir des explications rationnelles, en fait, de savoir pourquoi. Et parce que Tanguy, souvent, il me dit, bah, c'est la vie. Je dis, bah... Et moi, pendant un moment, je disais, mais non, c'est pas ça, la vie. La vie, c'est que j'ai un enfant, il est là, il doit naître. On a décidé de l'avoir, elle doit être là, quoi, avec nous. Donc, moi, c'était un peu plus long, quand même, le cheminement pour essayer de me faire à ça. Et après aussi, je rebondis sur l'après, donc l'enterrement, tout ça. Et après, en fait, avec Tanguy, on est parti. Lui, il bossait pour une boîte où le siège était en Australie. Et donc, il devait partir en Australie pendant un petit moment bosser. Là, j'étais, oh là, tu pars en plus ? Non, non, ça va pas être possible. Là. Et en fait, il devait voyager en business. Et du coup, il a demandé à son employeur, que je remercie vraiment infiniment parce que c'était vraiment un super beau geste de sa part. Et du coup, on a demandé si on pouvait avoir deux billets en
éco, plutôt qu'un billet en business.
Et il a dit oui. Donc en fait, on est parti pendant un bon mois, un mois et demi. On devait atterrir en Australie et en fait, on a atterri jusqu'au Fidji. Donc on est parti à l'autre bout du monde. Et là, c'était une chance incroyable d'avoir ça.
Ça t'a fait du bien ?
Ouais.
Tu mangeais du quinoa, tu avais un tatouage sur la cheville.
J'ai un tatouage. J'ai un tatouage. Je fais du pilates, mais on n'est pas loin. Et ouais, j'ai adoré. Ça a fait vraiment du bien. C'était ouf. Ça a été dur. Hein. Il y a eu des moments très durs. Même moi, j'avais besoin d'en reparler. Il y a ça aussi, l'après avec le conjoint. Ça peut rapprocher comme éloigner. Moi, ça ne nous a pas éloignés. Ça nous a rapprochés. Mais il y a eu des moments où on n'était pas sur la même longueur d'onde. Il l'a pas vécu comme moi je l'ai vécu, ce qui est normal. Donc il est peut-être passé plus tard à autre chose. Allez, c'est bon. Ok, c'est bon, t'es prête, c'est fini. On en refait un autre tout de suite. Attends deux secondes, moi. Deux minutes. Je voulais pas non plus avoir un bébé de remplacement. Donc je voulais moi un peu faire mon deuil. Donc je me suis fait accompagner. Il y a une psy à l'hôpital. Donc j'ai vu.
Il te le propose.
Il nous le propose, ouais. Donc j'ai vu une psy à l'hôpital pendant. Je l'ai vu deux trois fois. Ça m'a fait beaucoup de bien. Elle était top. Et après, en fait, j'ai voulu faire ce que j'ai une tante avec qui j'ai été très proche et qui nous a beaucoup accompagnés aussi lors de l'accouchement pour Judith et auquel je pense beaucoup et qui m'a conseillé une psy qui fait de l'EMDR. Ça m'a beaucoup aidée. En fait, l'EMDR, ça soigne les traumatismes quand vraiment tu sais, tu as une raison là, une mort, un viol, enfin un truc vraiment qui est concret. Et tu revis par le mouvement oculaire. Ouais. Tu revis la scène et les émotions ressortent. Donc, c'est hyper intense, mais c'est efficace.
Le MDR, moi, j'en ai fait aussi il y a quelques années. C'est assez dingue. C'est beaucoup plus connu dans d'autres pays, même si on en parle de plus en plus en France.
Ouais.
Et aux États-Unis, c'est pour les soldats qui reviennent de la guerre, ils ont droit à 5 ou 10 séances de MDR.
Okay.
Pour tout ce qui est stress post-traumatique, ouais. Choc, etc. Et ça a des effets... Alors attends, EMDR, c'est Eyes Mobilization et DR, je ne sais plus.
Je ne sais plus.
Directed, je crois. Et, enfin, en gros, c'est ils se sont rendus compte qu'il y avait un mouvement, il y avait un lien entre les mouvements oculaires que tu pouvais provoquer, même en suivant tu vois, un doigt qui bouge comme ça devant toi, l'imagerie cérébrale. Sur le cerveau, tu avais... On peut voir sur un cerveau qui a vécu un choc, ou quelqu'un qui est dépressif. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant des mouvements oculaires, ça avait un lien positif et... concret ouais. Sur les images qu'on pouvait prendre du cerveau.
Ouais, c'est dingue.
Et donc, tu l'as fait à l'hôpital, le MDR ?
Non, j'étais une psy que ma tante m'a conseillée et qui était hors hôpital. Ça, c'était...
Oui, donc c'est quand même toi qui dois payer pour ça.
Oui.
Ouais. C'est pas remboursé. Non. C'est fou quand même quand tu penses.
Ouais, c'est vrai.
Donc, tu as fait quelques séances de MDR.
Ouais.
Là, c'était après ton retour d'Australie ou avant ?
Oui, c'était après. C'est après l'Australie, ça.
Et assez rapidement, l'envie de... parce que c'était quand même ta première grossesse avec Judith. Et assez rapidement, est-ce que tu as eu l'impression que c'était rapide ou pas de te dire, allez, on relance la machine
ou... Ouais, je pense que c'était assez rapide quand même. Parce qu'en novembre, je suis tombée enceinte.
Oui, donc même au moment où tu as eu le rendez-vous pour l'autopsie, en fait, tu étais enceinte de Nino.
Ouais, pour le deuxième rendez-vous. Après, le premier... Enfin là, il nous avait dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, quoi. Et donc, deuxième, voilà. Ouais, en novembre, j'étais enceinte de Nino.
Comment tu as vécu cette grossesse?
Je l'ai assez bien vécu. Franchement, déjà hyper contente que ça marche encore une fois. On a la chance que ça marche vite, quoi. Donc, très contente que ça fonctionne. Et après cette grossesse, Ça s'est bien passé parce que j'ai retrouvé à ce moment-là. En fait, moi, je travaillais dans la mode à Paris. Et quand je suis revenue à Lyon, du coup, j'étais enceinte de Judith, donc j'ai pas retrouvé du boulot tout de suite. Et après, à Lyon, j'ai cherché et j'ai trouvé du boulot quand j'étais enceinte de Nino. Donc ça peut arriver. Ça arrive.
Heureusement, tant
mieux. D'être embauchée enceinte. Incroyable. Ma boss, elle me dit oui. Après, parce que ça. Ils cherchaient un CDD de 3 mois, donc ça les arrangeait aussi, hein, donc, mais ça arrangeait tout le monde, donc parfait. Donc j'ai bossé, après ça a été le premier Covid. Et en fait, ça s'est très bien passé, cette grossesse assez fluide. Bon, j'ai eu des moments de stress, on va pas se mentir, hein. J'étais très très suivie. J'avais des échos tous les mois, à la fin des monitos toutes les semaines. Limite, c'était moi qui ai mis un peu le holà parce que c'était presque un peu trop. Je veux pas passer.
Médicalisé. En fait.
Ouais, surmédicalisé. Ça a été un sujet avec Tanguy, mais pour Billy, notre troisième.
La petite
sœur
de Nino.
La petite sœur Nino. Où là, j'ai été surmédicalisée encore plus parce que la grossesse était un peu plus compliquée. Nino, bon, elle était pas compliquée la grossesse, donc voilà, c'était tous les mois. Et après, une écho par mois. Et à la fin, du coup, le 8e mois, parce que en fait, pour Nino et Billy, j'ai accouché, ils m'ont déclenché à 8 mois. Parce que bon, à 8 mois, ils sont bien formés et j'ai des beaux bébés gros, donc le poids n'est pas un sujet.
C'est une manière de ne pas prendre de risques.
Ouais, pas prendre de risques.
Ça, t'as pas le choix,
physique,
de toute façon.
Et surtout mental. Enfin, de pas. Psychologiquement, de pas. Le dernier mois, sinon, il aurait pu être compliqué, moi. À 8 mois passés, en fait, ça peut du coup être source de stress et ne pas être très bon. Donc, j'avais le choix sans avoir le choix. Mais moi, encore une fois, j'ai fait confiance. En fait, j'ai dit, OK, j'aurais pas d'accouchement naturel où il arrive quand il arrive. J'étais, c'est comme ça.
Pour les grossesses de Nino et Billy, est-ce que tu as réussi à profiter de tes grossesses, à ne pas trop penser à Judith? Est-ce que tu te renseignais
Ouais. Nino, oui, j'ai vraiment réussi. Je ne demandais pas le sexe déjà. Je voulais pas savoir, je m'en fichais. Je voulais. En plus, si elle était une fille, j'aurais comparé. Là, ouais. Je sais pas. Le temps qui va bien, voilà. Donc, franchement, je trouve que j'ai plutôt bien géré. Surtout Nino, quand même. J'ai fait pas mal de yoga aussi pendant le confinement. Je me suis pas mal recentrée sur moi, sur cette grossesse-là. Et j'ai eu des coups de stress. Et les moments de stress que j'avais, j'allais à l'hôpital. Ils me faisaient une écho et j'étais rassurée. C'était bon.
Est-ce que, après le décès de Judith, tu as eu besoin de te renseigner à fond sur le deuil périnatal ou pas forcément?
J'ai eu des périodes. En fait, il y a eu des périodes où j'avais besoin, où je bouffais des podcasts, justement.
Tu avais besoin d'entendre des histoires qui ressemblaient à la tienne?
Oui, ouais. D'en parler. J'ai une autre amie à qui c'est arrivé après nous, avec qui on a beaucoup discuté aussi, d'échanger avec des personnes qui l'ont vécu, parce qu'elles ressentent les mêmes choses, elles savent de quoi on parle, les émotions. Et du coup, on arrive à mettre des mots, quelquefois j'ai du mal à mettre des mots sur mes émotions, d'en parler, paf, c'est ça que je ressens, en fait. Ouais, et du coup, donc j'ai eu des périodes où il y a des moments où j'avais besoin, donc pendant un mois, j'étais à fond sur le deuil périnatal, j'écoutais, je potassais, et des moments, plus rien. Il y a des moments où j'étais en fait, pause là. C'était un peu, très fort ou pas du tout.
Est-ce que ça a changé quelque chose en toi, le décès de Judith? Est-ce que t'es une femme différente aujourd'hui que...
Oui, je pense, c'est sûr. Je pense que c'est... Déjà, la maternité change, pour moi. Enfin, de devenir mère, oui, ça a changé des choses en moi. Et en plus, je pense que ça... Oui, je pense que ça a changé. J'ai du mal à dire quoi, mais... Là, je le dis avec du recul et parce que derrière, il s'était passé des belles choses. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants derrière, très rapidement en plus. Donc, je peux dire que c'est des choses plutôt positives qui me sont arrivées. Enfin, par la suite, en fait. Et souvent, en fait, les échecs, les traumatismes, en fait, ça va chercher des choses au plus profond de nous-mêmes. Et je pense que si j'avais pas vécu ça, il y aurait des choses que j'aurais jamais ressenties et j'aurais pas connu ça. Et donc, c'est hyper douloureux. Évidemment, je le souhaite à personne. C'est pour ça que c'est bizarre, je trouve, je souhaite à personne de vivre ça. Mais je l'ai vécu, donc en fait, il faut vivre avec. Donc j'en tire du positif. Et du coup, je pense qu'il y a des trucs qui sont allés me chercher au fond, que j'aurais jamais vécu et sans ressenti si j'avais vécu ça.
Et tu parles de Judith à Nino et Billy. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a recommandé ou c'est venu de manière très naturelle?
On nous l'a recommandé d'en parler. Et ça se fait naturellement parce que... Judith est là, c'est notre premier enfant. Alors, ils ne l'ont pas connue, mais du coup, j'ai du mal à dire que c'est leur grande sœur. J'ai un peu le terme que j'ai un peu du mal à employer.
Et en même temps, tu es devenue mère avec la naissance de Judith, ouais. Ce que tu disais tout à l'heure.
Tout à fait. Mais du coup, on l'évoque, ils en parlent de Judith. Alors là, ils l'ont formalisé par une... On a plein d'objets à la maison, mais on a une fève, et je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas nous qui avons dit ça, hein. C'est eux, c'est Nino. Et c'est Judith, c'est la fève. Donc, ils la matérialisent par cette fève. Et après, nous, on en parle, on dit bah, que c'est un... Souvent, on dit bah, le jour, c'est un oiseau, elle est toujours au-dessus de nous, elle vole. Et... Mais du coup, quand je dis ça, Nino, il dit bah, du coup, on peut prendre un avion, aller dans le ciel, et puis on peut aller voler, on la voit, quoi. Je dis bah, ouais, si tu veux. C'est mignon, je trouve ça tellement touchant, les paroles des enfants. Et après, je dis que la nuit, c'est une étoile, voilà, qu'elle veille sur nous. Et voilà, donc, ils en parlent souvent.
Et on en parlait aussi en off tout à l'heure, tu me disais que tu trouvais ça assez fou, le fait. Qu'on n'ose pas utiliser parfois des mots comme « elle est morte », enfin qu'on utilise un peu des métaphores et que ça pouvait prêter à confusion.
Oui, ouais, c'est de plus en plus... Avec les enfants, je trouve que ça s'y prête de plus en plus. Et souvent, voilà, c'est des mots, le mot « mort », il est hyper dur à utiliser. On a du mal avec ça. Bah, elle est morte.
Tu remarqueras, moi, je ne l'ai pas dit. J'ai dit « elle est décédée ».
Ouais.
Mais est-ce que je trouve ça dur de dire « elle est morte » ?
Oui, c'est dur. Après, « elle est décédée », ça veut dire ce que ça veut dire.
Oui, mais je trouve ça plus doux que mort.
Mais c'est plus doux, ouais. D'accord. Mais du coup, avec les enfants, on utilise un peu... Bah, parce qu'une fois, en fait, une fois, il y a les enfants de cousins qui nous disent « Ah, mais ils étaient un peu surpris qu'on n'ait pas d'enfants. » Ils nous disent « Bah, mais vous n'avez pas d'enfants. » Et là, je dis « Bah, on en a eu... on n'avait pas Nino et Billy à ce moment-là. » Du coup, je dis « Bah, on a eu un enfant, mais on l'a perdu. » Et là, ils nous disent « Ah, mais vous l'avez perdu sur un... Mais au parking du supermarché. » Et du coup, je dis, ouais, bah, c'est sûr qu'à utiliser des mots comme ça, on a ce genre de questions derrière. Parce que c'est.
Et t'as rectifié en disant, elle est morte ou pas encore?
Et du coup, je dis, bah, enfin, j'ai même pas réussi à ni décéder ni morte, parce que c'était assez récent. Ouais. Plus, après, donc, j'arrivais pas à le dire. Et je dis, bah, non, en fait, elle est partie au ciel, on l'a perdue, mais elle est partie dans le ciel, quoi. Enfin, j'ai dit ça. Et aujourd'hui, avec nos enfants, surtout avec Nino, parce que Billy, elle est un peu plus petite. Mais Nino, lui, en a toujours un peu parlé et dit, bah oui, elle est morte, elle est dans le ciel. Et il a pas mal conscience de la mort, en fait, je pense. Alors après, c'est les personnes qui sont mortes aujourd'hui qui l'entourent, il ne les a pas vues avant. C'est des personnes qui sont mortes, qu'il n'a jamais vues, comme Judith ou le frère de ma belle-mère qui est mort, mais il ne l'avait jamais vue. Et voilà, il se dit, on peut peut-être un peu les voir. Il y a le cheval là, de la nounou qui est mort aussi. Et du coup, il en parle beaucoup. Enfin, en tout cas, il l'exprime pas mal. Et
attends, la nounou, un cheval?
Oui.
D'accord.
Et il est mort et c'était tout pour elle, donc c'est hyper dur.
Ouais, ouais, ouais.
Et
il était âgé ou pas forcément?
Non, pas forcément.
Ok.
Et du coup, et encore une fois, il lui a dit, bah, on prendra un avion, on ira le voir dans le ciel. Mais voilà, en tout cas, d'utiliser les bons mots, ça peut être dur, mais ça peut être bénéfique.
Et on l'a évoqué un peu plus tôt, tu as donc retrouvé la sage-femme qui t'a aidé à accoucher de Judith. Est-ce que tu peux nous raconter?
Oui, c'est un truc de dingue. On s'est retrouvés par hasard, en fait. Mes parents donc ont une maison, pas très loin de chez moi. En bas de leur jardin, il y a un petit portillon qui communique avec le jardin de l'autre maison, d'une autre maison. Donc, ses voisins sont arrivés il y a peut-être 2 ans maintenant, et 2-3 ans qui sont là. Ils ont fait plein de travaux et tout. Et en fait, ils ont 2 filles qui ont les mêmes âges que les filles de ma sœur, de Mathilde. Et quand Mathilde va du coup chez mes parents, souvent elles jouent ensemble. Et en fait, une fois, donc j'étais avec elle dans le jardin, et donc je raccompagne les filles donc aux voisins. Et là, je discute avec la maman. Je dis, ah mais toi, tu fais quoi et tout. Donc elle me dit, bah je suis sage-femme à Saint-Luc-Saint-Jean. Je tilte pas trop, mais à un moment donné, là, je fais, oh là là, je m'arrête. Et en fait, il y avait ma sœur et ma mère qui étaient avec moi à ce moment-là. Là, je parle plus. Ok, bon allez, c'était leur tunnel, donc bon, allez, bonne soirée, ciao. Et là, elle me dit, oula, ça va? Je dis, ouais, ouais, mais un truc de ouf, je pense que c'est elle. Et elle me dit, ah bon, et tout. Je dis, bah, et je dis, c'est sa voix. Parce que moi, je l'avais pas vraiment vu son visage, parce qu'elle était masquée. Mais sa voix, ça m'a fait un truc. Et après, je me dis, non, mais c'est quand même pas possible et tout. Donc, je laisse passer. J'ai pris son numéro par ma sœur qui l'avait. Et donc, je l'appelle. Je lui ai écrit un message, ça devait être 2-3 semaines après. J'avais le temps de digérer, de réaliser que c'était possible que ce soit ça. Je lui ai écrit un message en disant « Coucou Camille, est-ce que ça te parle ?» Judith, née avril 2019. Et là, elle me rappelle direct. Et elle me dit « Bah oui, c'est moi. »
Elle t'avait reconnue ou pas?
Oui, elle le savait depuis le début. Depuis qu'elle est arrivée, en fait, là où ils habitent, ils avaient déjà discuté avec mes parents, parce qu'ils sont voisins, et donc ils ont discuté. Et en fait, ma mère, elle lui a dit, ah, bah, moi, j'ai plusieurs petits-enfants. Et elle l'évoque, ma mère, elle l'évoque tout le temps, Judith, dans ses petits-enfants. Enfin, elle dit le nombre, en tout cas, pas les prénoms forcément, mais les nombres. Et oui, ma fille Manoli, ah, bah, peut-être que tu la connais, elle était à Sainte-Foy. Manoli, avec une fille Judith, il n'y en a pas 36. Non. Donc, elle le savait, mais secret pro, elle ne l'a jamais dit.
Mais toi, quand tu es allée la voir en bas du jardin, là, la première fois, ta maman et Mathilde étaient au courant?
Non, parce qu'en fait, personne n'était au courant parce que Camille, secret pro, elle ne l'a jamais dit.
D'accord.
Donc, il y avait juste Camille qui savait. Oui, Camille savait qui j'étais. Mais elle l'a jamais dit, même à ma mère, personne, elle l'avait dit.
En gros, elle pouvait rien faire tant que toi, tu l'avais pas dit.
Exactement, elle D'accord. attendait que ce soit, que ça vienne de moi, quoi. Et du coup, du moment où je suis venue, je pense qu'elle était un peu soulagée quand même. Ah, enfin, je peux en parler.
Toi, tu avais besoin d'en parler avec elle?
À la base, pas forcément. Je m'étais dit, de toute façon, je reparlerai jamais avec elle, parce que je la reverrai jamais. Et en fait, du moment où tu la retrouves, bah, ouais. Enfin, du coup, là, on s'est au téléphone, on en a un peu parlé au téléphone. Et après, on s'est revus, on allait boire un café.
Et c'est toi qui lui as dit, est-ce que tu accepterais qu'on aille boire un café, qu'on aille boire un café tout court, ou est-ce qu'on aille boire un café parce que j'ai envie de t'en parler?
Plutôt boire un café, et on savait toutes les deux qu'on allait en reparler, en
D'accord,
fait. Je pense
ouais.
C'était une évidence, donc même pas besoin de se le dire et de se le demander. Je pense qu'on pouvait pas ne pas en reparler. Et elle était OK. Donc, enfin, pour moi, du moment où elle acceptait de boire un café, c'est qu'elle était OK ouais. pour en reparler. On a bu un café une fois chez elle, après on s'est revus dans un autre café, et après on a dîné ensemble l'autre fois aussi.
T'avais déjà Nino quand tu l'as revu ou pas?
Ah, quand je l'ai revu, ouais, j'avais les deux.
Ah, t'avais déjà les
deux. J'avais Nino et Billy. Ouais, est-ce que c'était il n'y a pas si longtemps? C'était cet été. C'était en juillet.
Et le fait d'en reparler avec elle, c'était pour voir si t'avais oublié des trucs ou... Pourquoi t'avais besoin d'en reparler avec elle?
Bah, parce que je pense que c'est la personne qui a vécu la chose la plus intense de notre vie ouais. avec nous. Qui a été super. Enfin, après, et en plus, même pour elle, ça a été assez unique parce que c'est rare de rester aussi longtemps, d'accueillir quelqu'un à l'hôpital. Et elle pensait pas à m'accoucher. En fait, c'est elle qui est restée pour m'accoucher. Et on a eu un lien hyper fort avec elle. Et du coup, sans forcément avoir plus d'explications, mais il y a eu des trucs ouais, où on a eu besoin d'en reparler. Et tu vois, moi, j'avais oublié que c'était elle qui nous avait accueillis quand on est arrivé avec Mathilde à l'hôpital. C'est elle. Et elle me dit, moi, je vous ai accueilli, je vous étais arrivée avec ta sœur et ce bébé. Elle me dit, mais pourquoi, en fait? Donc après, elle a compris, mais elle était voilà, comment on va gérer ça ouais. avec un nourrisson. Et elle a été super. Et ouais, donc oui, on en a reparlé. Il y a plein d'autres signes après qui ont... Et en plus, quand elle m'a accouché de Judith, elle était enceinte de sa deuxième fille qui s'appelle Mathilde. Enfin,
ouais, comme ta sœur.
On a fait plein de liens. On était là, ouais, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue.
Tu te souvenais qu'elle était enceinte à ce moment-là ou pas?
Non, parce que même elle ne le savait pas.
D'accord.
Elle ne savait pas qu'elle était enceinte, elle était au tout début. Donc voilà, plein de petites choses qui sont dingues. Et aujourd'hui, on se croise souvent et on se voit. On a même dîné ensemble l'autre fois avec nos conjoints. Donc ouais, c'est, je trouve ça beau. Je la vois, ça me fait... Enfin, je suis contente, ça me fait quelque chose. Enfin, sourire, quoi.
Oui, il y a une relation qui s'est créée au-delà de Judith, mais qui a quand même commencé par Judith.
Ouais.
Merci, Manoli.
De rien, là.
C'était la fin de cette première partie. Et puis... comme pour la première fois, si tu es toujours d'accord, on a dit qu'on dédiait cet épisode à Judith, Jeanne et Thelma et à leurs parents qu'on embrasse.
Ouais, je les embrasse très fort et merci beaucoup Anne-Laure.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut !